tout un monde, Éric Guevara Frey.
J'ai pas vraiment recruté, mais j'ai demandé à des adolescents de faire des trucs comme détruire des preuves ou faire exploser des entrées de bâtiments.
Bonjour, si un enfant de 13 ans est assez mûr pour tuer ou déclencher des bombes, il est aussi pour répondre de ses actes et aller en prison. C'est le raisonnement qui pousse la Suède à abaisser l'âge de la responsabilité pénale dès cet été, un moyen pour le gouvernement d'enrayer la violence des gangs qui recrutent toujours plus jeunes. On va voir si ça marche, s'il y a d'autres leviers à actionner et ce que font d'autres pays en Europe, dont la Suisse. Et puis nous irons au Venezuela, un mois après la capture par les États-Unis du président Maduro. À quoi ressemble le quotidien et quels sont les espoirs de la population? Une forme de coopération, écoutez les guillemets, étonnante s'est mise en place entre Washington et Caracas. 3, 2, 1. Est-ce qu'un enfant de 13 ans peut être reconnu responsable de ses actes comme un adulte? La Suède, confrontée à la violence des gangs, s'apprête à répondre oui. Les bandes criminelles recrutent des mineurs toujours plus jeunes parce qu'ils peuvent échapper aux peines les plus lourdes s'ils sont attrapés. Le gouvernement conservateur, avec le soutien des sociaux-démocrates, veut donc abaisser l'âge de la responsabilité pénale de 15 ans actuellement à 13 ans dès cet été pour une période expérimentale de plusieurs années. Les travaux d'aménagement des prisons sont en cours, même si c'est compliqué. Ce durcissement de la justice des mineurs, est-ce qu'on l'observe ailleurs en Europe? Est-ce que c'est une réponse efficace? Quels sont les risques de sacrifier un peu vite, peut-être, les droits de l'enfant? Bonjour Julie Rosis.
Bonjour.
Alors d'abord, il faut poser le contexte en Suède avec cette explosion de violence.
Oui, on compte plus ou moins une fusillade par jour en Suède ces dernières années. Et derrière cette violence, il y a des gangs qui se font la guerre et qui recrutent des jeunes toujours plus jeunes, 13, 14 ans, parfois même moins, des enfants soldats utilisés comme passeurs ou tueurs à gages, justement parce qu'ils sont encore considérés comme irresponsables devant la justice. Notre correspondante en Suède, Ottilia Ferret, avait recueilli l'an passé le témoignage de Victor, 25 ans, un ancien membre de gang à Stockholm.
J'ai pas vraiment recruté, mais j'ai bien demandé à des adolescents de faire des trucs pour moi, comme détruire des preuves ou faire exploser des entrées de bâtiments. Mais le plus souvent, c'était des ados qui venaient à moi d'eux-mêmes. Et c'est clair que les âges ne cessent de diminuer. Il y en a de plus en plus qui sont condamnés pour des crimes graves et qui prennent 3 ou 4 ans de prison. Ça n'a fait qu'empirer ces dernières années.
L'an passé, les tribunaux suédois ont jugé 158 affaires criminelles impliquant des enfants de moins de 15 ans, dont 25 étaient soupçonnés de meurtre. Pour le gouvernement suédois, abaisser l'âge de la responsabilité pénale pour les actes les plus graves, c'est un moyen de protéger la société face à une nouvelle réalité. Concrètement, avec cette loi, les enfants dès 13 ans, condamnés pour meurtre, attaque à l'explosif ou viol aggravé, pourraient écoper de peines d'enfermement. Mais ces mesures sont critiquées par les experts. L'administration pénitentiaire d'abord se dit ni préparée, ni équipée à prendre en charge des enfants aussi jeunes. Et puis la police suédoise, elle s'inquiète que les 10, 11, 12 ans deviennent la nouvelle chair à canon des gangs.
Et qu'est-ce qui se passe ailleurs en Europe, Julie? On remet aussi en question l'âge de la responsabilité pénale?
Alors pas directement, parce que beaucoup de pays ont déjà une limite basse ou pas de limite du tout, et aussi parce que au-delà de l'âge, c'est la nature de la réponse, punitive ou éducative, qui compte. Et on a un bon exemple de cela juste sous nos yeux.
La situation en Suisse aujourd'hui, c'est l'âge minimum d'intervention pénale, c'est 10 ans, ce qui est un seuil extrêmement bas sur un plan européen, voire même mondial. Maintenant, on vient presque, je dirais, on vient un peu de loin, parce qu'avant 2010, c'était 7 ans.
Olivier Boila est juge au tribunal des mineurs de Genève et président de l'Association latine des juges des mineurs.
Ça nous permet une intervention précoce, c'était je pense le but du législateur, c'est-à-dire d'intervenir quand en fait il n'y a pas encore trop de stigmates de délinquance et puis voilà, de se donner les moyens d'intervenir le plus vite possible. Par contre, notre droit est vraiment axé sur la prévention spéciale et sur l'éducation, la protection de l'éducation du mineur.
Car en Suisse, l'âge de la responsabilité pénale, 10 ans, est différent de l'âge minimum de détention fixé, lui, à 15 ans. Alors si ces limites, elles ne sont pas au cœur des débats en Europe, on observe dans plusieurs pays un durcissement des discours politiques en matière de délinquance juvénile, souvent en réaction à des faits graves, très médiatisés ou à la montée de la préoccupation sécuritaire.
Oui, vous nous donnez des exemples, Julie?
En France, après les émeutes qui avaient secoué le pays en 2023, Gabriel Attal était alors Premier ministre.
Je ne me résoudrai pas à ce qu'on préfère attendre avant de donner une lourde peine, alors que bien souvent, c'est très tôt qu'il aurait fallu agir. Nous devons disposer de sanctions adaptées pour les mineurs de moins de 16 ans. Pour eux, on ne peut pas aujourd'hui prononcer de peine de travaux d'intérêt général. Je vous annonce que nous créerons des travaux d'intérêt éducatif qui seront leur équivalent et seront donnés plus facilement que des peines d'intérêt général. Dès le plus jeune âge, il faut en revenir à un principe clair. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter.
Autre exemple, en Belgique, Cécile Matisse est docteur en psychologie et professeur au département de criminologie de l'Université de Liège.
Il y a des discussions pour revenir à des réponses rapides, en fait, ce qui était plutôt une politique qui était en diminution, pour être dans des axes éducatifs, avec des projets pédagogiques cohérents. Et puis là, on revoit des réponses qu'on appelle coup d'arrêt pour s'adresser au sentiment d'impunité avec cette logique de « parce qu'on réagit, parce qu'elle rappelle à la loi, ça va être suffisant ». Face à ce sentiment d'impunité, on veut une réponse forte qui va leur faire peur. Mais la logique de la peur ne fonctionne pas avec un adolescent.
Et le juge Olivier Boilla partage cette analyse.
Maintenant, on voit bien que les pays qui ont adopté des systèmes répressifs extrêmement sévères contre les jeunes, c'est une catastrophe. On prend les États-Unis, c'est une catastrophe. On prend même la France maintenant, qui permet à partir de 16 ans de condamner des jeunes à des peines d'adultes. On n'a absolument pas endigué la violence et la criminalité avec ce genre de choses, parce que on focalise là-dessus, alors qu'il faut focaliser plutôt sur, encore une fois, les mesures de prévention, éducation, et puis les moyens qu'on donne aux foyers. Quand vous avez des foyers qui sont pleins tout le temps, il y a des listes d'attente interminables, mais on ne peut pas faire notre travail. Et c'est là qu'il faut mettre l'accent.
Ah, le débat est très politique, hein. Mais est-ce qu'il y a un consensus scientifique, par exemple, sur l'âge de la responsabilité pénale ?
Oui, d'abord du côté du droit international, comme l'explique Roberta Ruggiero, directrice de la Children's Rights Academy à Genève et à Sion.
La Convention ONU sur les droits des enfants encourage explicitement le recours à des mesures sans procédure judiciaire telles que la médiation ou l'accompagnement éducatif. Et le Comité des droits des enfants recommande que l'âge minimum de responsabilité pénale soit fixé au moins à 14 ans et encourage les États à le relever davantage. Et cette position repose, je dirais, sur un consensus scientifique interdisciplinaire plutôt bien développé aujourd'hui.
Et qui repose notamment sur les neurosciences et la psychologie. Cécile Matisse.
Dans un contexte du quotidien où il n'y a pas spécialement de difficultés particulières, on peut tout à fait exercer son discernement, être en contrôle de ses actes et dans une régulation émotionnelle, exercer son plein jugement. Et donc, si c'est effectivement le cas, on est avec un développement cognitif qui devient stable vers 16-18 ans. Mais on s'est rendu compte depuis que dans des situations émotionnellement chargées, ces acquis, en fait, ne tenaient pas. Et que quand on est soumis à des stress, à des influences, à des tensions, eh bien, notre capacité de discernement, notre capacité à prendre une décision qui serait éclairée, exercer un contrôle de soi, tout ça s'est mis à mal et on n'a plus ces capacités parce qu'en fait, on est pris par l'émotion. Et on arrive à exercer cette régulation émotionnelle plutôt vers 25-26 ans.
Quant au tableau statistique, il est plus nuancé que le laisse parfois penser le débat politique. Il indique une diminution générale de la délinquance juvénile en Europe, mais une hausse pour certains délits graves.
Merci Julie Rosis.
Scène de chaos à Caracas, la capitale vénézuélienne a été visée dans la nuit par d'importantes frappes américaines.
De fortes explosions, des survols de missiles, d'avions et d'hélicoptères au-dessus de Caracas.
The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela, it is a narco-terror cartel.
The United States conducted a military operation to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. We're going to run the country.
Et c'était il y a un mois, les États-Unis enlevaient le président vénézuélien Nicolas Maduro et sa femme pour les présenter devant la justice à New York, accusés de trafic de cocaïne, d'association avec des cartels de narcotrafiquants. Cette opération militaire surprise de capture d'un chef d'État en exercice a sidéré d'abord les habitants de Caracas, témoins d'explosions, de survols de toutes sortes, et puis toute la planète dès les tout premiers jours de 2026. Est-ce la fin du régime chaviste, du nom de l'ancien président Hugo Chavez ? Non, la présidente par intérim, Delcy Rodriguez, qui a prêté serment dès le départ forcé de Nicolas Maduro, se réclame de cette idéologie d'inspiration communiste, marxiste, que son fondateur voulait à l'origine comme un socialisme moderne. La nouvelle présidente a par contre mis un peu d'eau dans son anti-américanisme, on va en parler. À quoi ressemble le Venezuela après un mois sans Maduro ? Quels sont les espoirs de sa population ? Nous avons appelé notre correspondante là-bas, Alice Campagnol. Elle nous raconte que pour l'instant, le quotidien est presque normal, si ce n'est des décisions politiques qui marque les habitants.
Par exemple, la loi d'amnistie générale qui a été annoncée par la présidente intérimaire Delcy Rodríguez vendredi. Et déjà, il y avait quelques remises en liberté hein, qui avaient eu lieu depuis l'arrivée au pouvoir donc, de Delcy Rodríguez. Mais ça, cette loi d'amnistie générale, elle est réclamée depuis très longtemps. Donc, libérer et blanchir tous les détenus qui sont derrière les barreaux pour des raisons politiques, parce qu'ils sont des militants, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les idées du gouvernement. Ça, ça crée beaucoup d'espoir aujourd'hui au Venezuela, peut-être enfin sortir de cet autoritarisme que l'on vit depuis plusieurs années maintenant.
Cette amnistie généralisée, c'est un gage de bonne volonté à l'égard de la population, c'est plutôt à destination des États-Unis, c'est pour quelle raison ?
Officiellement, c'était un geste de paix pour une cohabitation pacifique. Je vous cite les mots de son frère, le président de l'Assemblée nationale, et puis ses mots aussi, les mots de Delcy Rodríguez. Donc, dans l'idée, c'est pour que la population, finalement, cohabite, puisqu'il y a, elle est divisée, hein, cette population, entre ceux qui soutiennent toujours le chavisme et puis les opposants. En réalité, il semblerait quand même que tout ça soit le fruit de la pression mise par Washington. Aujourd'hui, il semblerait que le gouvernement vénézuélien soit obligé par l'administration Trump à prendre certaines décisions, et notamment cette décision de libérer les prisonniers politiques, mais pas seulement. Il y a également, par exemple, une loi d'hydrocarbures qui a été votée, une loi qui va clairement dans le sens d'une possibilité d'une extraction du pétrole par des entreprises privées. Ça va complètement à l'inverse de ce que vous voulez Chavez, et finalement de cet héritage chaviste. Et ça, on sent complètement finalement l'influence de Washington sur ces décisions.
Oui, alors justement, la semaine dernière, Donald Trump parlait d'une très bonne relation avec Delcy Rodríguez. Elle disait plutôt qu'elle en avait assez de recevoir des ordres de Washington. Elle est où la réalité ? Elle se passe comment la coopération entre les deux ?
Je pense que finalement, les autorités chavistes aujourd'hui au pouvoir n'ont pas le choix. On l'oublie pas, on sait comment négocie Donald Trump. Et il avait menacé directement Delcy Rodríguez. Il l'avait menacé de quelque chose pire que ce que vivait Nicolas Maduro. Bon, on imagine ce que ça peut être pire que finalement avoir été arrêté et emmené dans une prison américaine. Donc les autorités n'ont pas le choix. Delcy Rodríguez, elle maintient un peu un discours pour ses partisans, un discours anti-impérialiste en disant « il ne décide pas sur notre pays ». Mais la réalité semble quand même que la souveraineté du Venezuela aujourd'hui ne soit pas pleine et entière, pas du tout. C'est bel et bien Washington qui tire les ficelles, même si les autorités veulent faire croire le contraire.
Et Delcy Rodríguez, elle est vue comme légitime, elle est vue comment par la population ?
C'est difficile à dire. Alors aujourd'hui, il faut savoir que les partisans, les réels partisans du chavisme, on calcule qu'ils sont 15-20% dans le pays. Donc eux, ils la soutiennent coûte que coûte. Moi, je suis allée dans pas mal de manifestations où les partisans disaient qu'ils la suivaient, ils approuvaient ses décisions, même si discrètement, les gens reconnaissent qui ne comprennent pas très bien aujourd'hui les chavistes, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Quel est l'héritage anti-impérialiste ? Et finalement, aujourd'hui, on suit toutes les indications de Washington. Aujourd'hui, l'ambassade américaine est en train de rouvrir. Il y a une ambassadrice qui vient d'arriver. Donc, c'est très surprenant, finalement, pour tous ces partisans chavistes, ce qui est en train d'arriver. Mais officiellement, on suit Delcy Rodríguez. Du côté de l'opposition, c'est un autre son de cloche. Elle est pas très acceptée, Delcy Rodríguez. Finalement, l'opposition est très contente que le chavisme ait été décapité, finalement, que Maduro ait quitté le pouvoir. Mais il voit en Delcy Rodríguez tout simplement sa suite. Rien n'a vraiment changé. Ce sont toujours les mêmes personnes qui dirigent le pays. Donc l'opposition est quand même toujours un peu mécontente de cette présence de Delcy Rodríguez au pouvoir.
Mais est-ce que l'opposition arrive à saisir l'opportunité pour se renforcer ?
Non, pour le moment, l'opposition, elle est vraiment elle est en très mauvaise posture ici au Venezuela. Donc d'un côté, vous avez une opposition qui a fui le pays, avec à sa tête María Corina Machado, prix Nobel de la paix. Et ça, c'est une opposition, c'est difficile finalement qu'elle s'organise, puisqu'elle est répartie dans le monde entier. Et puis l'opposition au Venezuela, c'est une opposition qui est très affaiblie. Beaucoup de militants ont été mis derrière les barreaux. je vous le disais tout à l'heure, il commence petit à petit à être libéré. Mais avant que cette opposition ne parvienne à se réorganiser, il faudra encore pas mal de temps.
C'est quoi les perspectives pour le Venezuela dans les semaines, les mois qui viennent? Delcy Rodríguez va rester en place?
Beaucoup d'incertitudes hein, là-dessus. C'est une question qui est difficile, puisqu'on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Delcy Rodríguez n'a pas parlé d'élection pour le moment. Donc, tout le monde est un peu tendu à ce propos. L'ambassadrice américaine, et ça, ça vous rappelle que c'est finalement Washington hein, qui tient les rênes, l'ambassadrice américaine a évoqué des élections qui viendront bientôt. Alors, bientôt, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Marco Rubio en a parlé aussi quand il était devant le Congrès la semaine passée. Il a dit que des élections allaient bientôt avoir lieu. Donc, personne ne sait vraiment ce que signifie ce bientôt. Mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est encore et toujours, comme je vous le disais, c'est Washington qui décidera quand est-ce qu'il y aura un scrutin, et un scrutin que tous les Vénézuéliens attendent comme libre, hein, indépendant, avec des résultats transparents.
Un mot sur le pétrole, hein, le Venezuela a besoin d'en vendre, d'en exporter pour survivre. Les États-Unis lui demandent de couper les liens avec certains pays pour avoir le droit de redémarrer la production. C'est quoi la marge de manœuvre du Venezuela là ?
Très petite, la marge de manœuvre du Venezuela. Aujourd'hui, le pays n'a pas vraiment le choix et il semblerait qu'en plus, voilà, la loi qui a été votée, la loi sur les hydrocarbures, elle est façonnée pour Washington aujourd'hui, pour que le Venezuela fasse du business avec les entreprises américaines. C'est ça le but. Et petit à petit, il semblerait que voilà, le Venezuela va être obligé par l'administration américaine de couper les liens avec l'Iran, de couper les liens avec Cuba, etc., pour finalement faire du commerce avec les États-Unis, ce qui, je le rappelle, s'est toujours fait au Venezuela. Le début de l'industrie pétrolière dans le pays s'est fait main dans la main avec les États-Unis. Donc c'est une relation qui est très ancienne, et Chevron, qui est une entreprise américaine, est restée présente dans le pays depuis toutes ces années, même avec une production un peu limitée, mais est restée ici. Donc là, pour le moment, en tout cas, on se dirige vers une coopération en matière pétrolière avec les États-Unis, sans aucun doute. Et le Venezuela n'a pas vraiment le choix sur avec qui fait du commerce. Et notamment parce qu'il y a des échanges, parce qu'il y a cette loi sur les hydrocarbures qui est très prometteuse pour beaucoup. Donc finalement, le marché se détend, l'inflation baisse, et ça n'arrive jamais au Venezuela que l'inflation baisse. Et ça va se ressentir, et ça c'est extrêmement important pour améliorer la vie quotidienne des Vénézuéliens. Il y a un taux de pauvreté extrêmement élevé ici dans le pays, et c'est ce que tout le monde attend finalement, hein. C'est que l'inflation baisse, finalement que le revenu des ménages augmente, qu'enfin on sorte de ces 85% de taux de pauvreté ici dans le pays.
Alice Campagnol, notre correspondante au Venezuela. Pour refermer tout un monde qui se podcast sur PlayRTS, Apple Podcast ou Spotify, et si vous voulez nous écrire, nous envoyez vos critiques, suggestions, félicitations, encouragements, propositions de sujets ou que sais-je, c'est tout un monde en un seul mot @rts.ch.
Tout un monde.